Ça, je déteste. Je suis pas très adroit avec les platines.
Radio FMR présente. Le supplément week-end.
Le magazine. Et non, et non, et non, et non, bonjour à tous et bienvenue. C'est en attendant le supplément week-end. Ah ouais, je sais, il y a 3 semaines, nous avions fait notre 200e émission. Ouais, je sais, ça fait... On termine notre 5e saison, quoique ça va continuer pendant l'été. On avait prévu 2 semaines d'interruption, notamment parce que notre radio hôte, Radio FMR, avait prévu des directs pour 4 grands événements à Toulouse. Il y avait le Forum des Langues, les 35 ans du planning familial, le Marathon des Mots et le Festival Rio Loco qui a encore lieu à l'heure où je vous parle. Normalement, aujourd'hui, nous sommes censés reprendre. Thomas m'avait néanmoins prévenu que ce week-end, il avait une obligation familiale, joker. Donc, ouais, ok. Du sport, lui, a une obligation professionnelle qui s'est déclarée en semaine. Ah ouais, je me voyais moral, tenir la barque tout seul, avec ou sans JB d'ailleurs, de toute façon, c'était quand même plutôt lourd. Alors, on s'assied, on boit frais, j'ai grave de chaud là, dans mon petit studio. Plutôt que de vous laisser sans nouvelles comme ça, votre serviteur occupe notre créneau normal d'émission et de podcast, en excitant vos oreilles avec des stimuli de choix. Pour commencer, une émission qui nous est chère dans la mémoire de Radio FMR, Machin dans l'espace. Machin dans l'espace. Oh, je vais d'abord présenter, c'est un sketch d'il y a 10 ans, c'est pas la meilleure saison de Machin dans l'espace, ils en ont fait, ouais, il y a plus de 8 je crois. Et Lez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, parce que Lez, moi je me souviens tous les animateurs radio éphémère et tous les auditeurs, surtout les enregistrés, moi je me souviens, on se les passait au lycée, puis ensuite à la fac. C'était énorme, quoi, on trouvait ça génial, et puis en même temps, moi j'ai fait connaissance d'un vendeur de bande dessinée, qui m'a donné envie de faire une émission radio, qui a dit c'est dommage, c'est vrai, il n'y a pas de bonnes émissions de radio, il y a plein d'émissions à l'époque sur le jeu de rôle, mais il n'y a pas sur la bande dessinée. Bien après que je me suis rendu compte que c'était la même personne. Alors ça, je crois que Les n'y est plus d'ailleurs, déjà à l'époque. Mais néanmoins, c'est une saison de Machin dans l'espace avec des sketchs qui sont toujours aussi drôles à écouter. Tous les mardis soirs, un groupe d'amis se retrouvait pour interpréter en direct leur sketch Nonsense, sans réellement avoir répété, mais écrit à plusieurs mains sur Internet. C'était en 1999, c'était pas encore si courant. Alors les amis, ne vous inquiétez pas si votre écran va avoir des sautes de couleurs, si l'image revient en format 4 tiers et le son en mono, car voici Machin dans l'espace.
Alors inspecteur, tout le monde est là ?
Oui, Madame Marples, j'ai ressemblé tout le monde comme vous m'aviez demandé. Comme vous m'aviez demandé.
Je ne peux pas rester longtemps, inspecteur, j'ai des patients qui patientent.
Ceci prendra le temps qu'il prendra, Dr. Jones, asseyez-vous.
Merci, inspecteur.
Qu'est-ce qui se passe, Miss Marple ? Pourquoi nous avez-vous convoqué ?
Ce qui se passe, Mademoiselle Pettigrew, est que j'ai enfin pu élucider le mystère du meurtre de Lawrence Armstrong. Je vous ai convoqué parce que c'est à vous que profite sa mort.
Mais ça va pas, non ? C'était mon frère.
Oui, Dr. Jones, vous êtes le frère cadet de Lord, et vous allez hériter de la fortune familiale.
C'est peut-être vrai, mais je ne suis pas pauvre. Je n'avais pas besoin de le tuer.
Et les 100 000 francs que vous devez à la Française des Jeux ? On ne peut pas acheter 3 000 millionnaires par jour sans faire des frais.
C'est vrai, je suis malade, je l'avoue.
Et vous, Miss Pettigrew, on croirait que vous n'étiez qu'un simple secrétaire, mais je sais que votre frère est mort au front sous le commandement du Lord Armstrong. Vous en vouliez peut-être au Lord Armstrong. La vengeance, après tout, est un motif fort.
Eric était si jeune.
Et vous, Madame Jones, dois-je révéler que le Lord Armstrong vous a fait du chantage depuis que vous êtes sortie avec lui il y a un an ?
Oh, Muriel !
Oh, Arnold, je suis désolée, pardonne-moi. J'ai couché avec lui, seulement parce qu'il a promis de parler avec les gens de la Française des Jeux.
Oh, Muriel.
Et vous ? Je ne connais pas votre motif, mais vous avez l'air coupable.
Oh, chef,
Ne vous inquiétez pas, sergent, je sais que c'était pas vous.
Je vous ai convoqué ici dans la bibliothèque parce que c'était ici, dans la bibliothèque, que Lord Armstrong a été assassiné brutalement. Poignardé dans le cœur 15 fois, étranglé avec la corde du rideau, découpé en 7 morceaux avec une hache de bûcheron albanais, les yeux transpercés par les flèches, immolé et enfin empoisonné. Et la personne qui a commis ce meurtre horrible est dans cette pièce. Qui ?
Oui, Madame Marples, qui ?
Je n'ai aucune idée. J'avais espéré que l'un d'entre vous aurait tout avoué. Bon, ben d'accord. On va essayer de trouver la solution par déduction logique. Tout d'abord, tout le monde est d'accord pour que la police ne fisse pas une chose pareille.
Oui, bien sûr.
Alors on les élimine. Le premier indice était que son Altesse a été poignardée 15 fois dans le cœur, ce qui est exactement le nombre de balles que le frère à Mademoiselle Pettigrew a reçu. Ceci désigne Mademoiselle comme coupable.
Arrêtez Mademoiselle Pettigrew, sergent.
Mais c'est un faux indice, car j'ai vu Mademoiselle Pettigrew la veille du meurtre au spectacle d'hypnotisme en ville. Elle a été hypnotisée pour qu'elle oublie le numéro 7. Si elle avait poignardé le Lord, elle l'aurait donc fait 14 fois en croyant que c'était 15. Donc, ce n'était pas elle.
Incroyable. Bon, lâchez-la, sergent.
Le deuxième indice, est que le Lord faisait de la musculation. Il aurait fallu un homme fort pour l'étrangler, avec la corde du rideau. Un homme comme Dr. Jones.
Ah, Dr. Jones, venez avec nous.
Mais malheureusement, j'ai appris l'autre jour que le Dr. Jones a une peur irrationnelle des rideaux. Donc, ça ne peut pas être lui.
C'est donc Madame Jones, alors.
En effet. Le fait que le Lord a été empoisonné la désigne comme coupable, car l'empoisonnement est d'après tout l'arme d'une femme.
C'est bon cette fois, arrêtez-la, sergent.
Attendez, inspecteur. Vous voyez, le poison que l'assassin a choisi était le liquide de frein. Et aucune femme ne saurait acheter de tels liquides sans qu'on la remarque. Non, ça ne peut pas être Madame Jones.
Si ce n'était pas Dr. Jones, ni Madame Jones, ni Mlle Pettigrew, alors ça ne laisse que vous.
Ah, ça ne peut pas être correct. Je vais recommencer. La hache qui était utilisée pour découper le corps était albanaise. Et Mademoiselle Pettigrew a passé 2 mois en Albanie l'année dernière, n'est-ce pas ?
Bon, c'est Mademoiselle Pettigrew alors, hein ?
Non.
Non.
Car elle a passé les vacances en Albanie du Sud. Et cette hache est originaire de l'Albanie du Nord, car la marque l'indique.
D'accord, on l'élimine alors. Ensuite ?
Le Dr. Jones a représenté le pays aux Jeux Olympiques pour le tir à l'arc. Alors on aurait tendance à le soupçonner. Pour les flèches dans les yeux, une cible difficile, n'est-ce pas ?
Oui, mais...
Mais dans l'angle d'attaque des flèches, on ne peut deviner que le tireur était gaucher. Dr. Jones est droitier. Ce que j'ai remarqué quand il m'a fait une ordonnance ce matin.
Donc, on élimine le Dr. Jones. Et Madame Jones ?
Madame Jones est une pyromane. Quelque chose qu'elle ne cache pas. Elle aurait pu immoler le corps.
Mais elle ne l'a pas fait parce que...
Parce que le corps n'a pas été seulement brûlé, mais aussi laissé mijoter sur le feu doux. Pendant 2 heures dans une sauce au basilic. Ça aurait demandé les qualités de maître chef de cuisine, ce qui n'est pas le cas pour Madame Jones. Comme j'ai constaté chez elle hier soir, j'ai dû cracher sa soupe dans la gamelle du chat pendant que personne ne regardait. Non, ce n'était pas elle.
Ce qui laisse vous encore.
Attendez, je vais pouffer. Oui, aidez-moi. Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. La personne qui a tué le Lord Armstrong est...
C'est encore vous.
Attendez, j'ai pas fini. Et celui que je désigne maintenant...
C'est encore vous. Sergent, arrêtez-la et amenez-la.
Non mais attendez, mais vous êtes sûr qu'il est mort? Mais à l'aide!
Ah oui, qui aurait pensé que ce serait elle? En plus, si seulement elle avait rien dit, j'aurais dit que c'était suicide.
Ah, c'était Macha dans l'espace. Un extrait de leur émission enregistrée en direct le mardi 23 mars 1999. Des extraits retrouvés et restaurés par Sylvain et Steph qui l'a mis en ligne. Sur le site de la radio. Et si vous allez dans le billet associé à ce podcast, et maintenant vous avez les liens. Pure musicale avec un morceau illégal, un mash-up, le mix improbable entre plusieurs morceaux pour en faire un autre. Le projet Illinois a été monté par le producteur québécois Thor, samplant et remixant les morceaux de Surfin Stevens, un musicien qui est vraiment un multi-orchestre. Il joue de la guitare, il fait du synthé, la batterie. et Rix bien sûr, et poser donc Thor a extrait juste les fonds sonores, les extraits musicaux, en fait la bande orchestre, ce qu'on appelle, pour y poser dessus par exemple les voix de rappeurs, ce qui donne une épaisseur à la place des instrus originaux qui sont plutôt mecs. C'est vrai que dans le hip-hop, depuis quelques années, depuis justement que la voix hardcore française a réinfluencé les États-Unis, c'est vrai que c'est plutôt maigre. Il n'y a pas vraiment de bonne profondeur, je veux dire, musicale dans la plupart des morceaux de hip-hop. Et ben là, justement, Pete Rock et CL Smooth, leur morceau Specialize se fait remixé sur un morceau de Surfin' Stevens, John Wayne Garcia Jr. Le tout est remixé par Thor et l'album est téléchargeable illinois.biz.
It's like Moses talking to the burning bush. Face the furious meltdown of underground bugs. The kingpin raising all my thugs here. We're not set for flossing off a head nod. With the click that makes you die for the family and God. No doubt we're facing this and guard your radius. When I come with the squad that were dead at instantaneous. Arms grab me out the killing fields of crossfire. Just to put me in chains behind barbed wire. Keep a strap on his lap. To negate his fat blessing is done. They drag him naked for blocks. Till you open up the safe box and new glocks. My revolution's gold is every hour. My firepower's aimed at your control tower. True that, I thought you knew that. My swerve is out of hand. Introducing scatter blast. My stick is in the posse, a legendary madness to blend with main men approaching ghetto celeb status. Guns for hire, moving keys up my empire. The sources, niggas reaching for the armed forces, a wolf in sheep's clothing, and snakes that rattle. Plus your ultimate fear is being cut down in battle. Blessed with the team and they get the cream, and my bloodline is fiend and the slay the demon. So what you want done? Tons of guns, hoes, most goes in addition. Balling in the crew for position, dancing my terror, the crow love, etc. Warrior competitor, a step ahead of your fruit kicks, front like you're from the penitentiary. Cause outside you're full. Inside you, empty, tempt me to break your manhood and work you like a mule. Cause the world has no pity for the fool. Meet the press. Now Don, tell us really what it represents. Any man should die for turning state's evidence. Who you're phasing, the extra blazing conversation. That's probably why they hold me in for tax evasion. Hope my click knock a brinks and my family eat. Preparing all my enemies to fall before my feet. It's sweet to see the black man rise. Open your eyes, CL Smooth specialize. Take them to the streets with fleets of who running. Trapped up in a holy war where you don't want it. Feud escalate and the drama can't cease. Take this jewel in the sock to the headpiece. The crime miller, gorilla, the hunted bounty killer. Tracking something sinister, confess to your menace. I want seven figures, we pull the biggest triggers. Or bring a lynch mob back and start hanging niggas. With brute force I show no remorse. Break you off like sexual intercourse. Dig it, the connection. For you to start to pay me for protection. And make no mistake, we want all the cake. Do your pull-ups and dips in the cool-out muscling. But when midnight strikes, all my players start hustling. Put your weight on the scale and major supplies. To pump these drugs, we specialize.
I'm gonna get the ball.
écouter en attendant le Supplément Week-end sur le podcast supplementweekend.fr et sur Radio FMR 89.1 MHz à Toulouse. Et pour nos amis ou dilecteurs qui sont basés en France, la loi Hadopi est passée au journal officiel. Oui, je sais, je fais une fixation là-dessus. Bon, dimanche du moins, ce qui n'a pas été violemment censuré par le Conseil constitutionnel. Ça donne une loi qui est un peu rabais, mais la ministre Christine Albanel nous a promis qu'elle allait repasser ça. La riposte graduée, toute la violence qu'il y avait dans cette loi. Ce que je m'étonne quand même, c'est que si peu d'artistes se soient manifestés. Après tout, le pouvoir en place a défendu en leur nom la suspension des libertés individuelles, l'espionnage de la vie privée et l'instauration d'une censure. Pour moi, je veux pas dire, mais à ce stade, les artistes sont les enfants gâtés pourris de la démocratie. C'est pour ça que j'ai traité de fasciste sur mon blog. Certains l'ont plutôt mal pris, hein. J'ai eu des coups de fil, bon. Bah ouais, mais ils sont pas manifestés contre cette loi. D'un autre côté, cette semaine, c'est le début des épreuves du bac et un sujet de philosophie du bac ES, économie et sociale, avait une certaine ironie à ce sujet. Que gagne-t-on à échanger ? En ayant eu vent, des internautes se sont piqués au jeu d'y répondre dans le temps imparti, c'est-à-dire 4 heures, via un logiciel d'édition collaboratif. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à plusieurs à rédiger en même temps, chacun de leur côté, le même document texte, et chacun voyait les corrections des autres. Et le résultat final est téléchargeable sur le net, bien sûr. Leur copie commence par une réponse supposée. Un premier mail d'avertissement, suivi d'un courrier recommandé, et enfin la coupure de la connexion Internet. Telle serait la réponse probable de Christine Albanel, agrégée de lettres modernes, actuelle ministre de la Culture et de la Communication. Ensuite, il y a tout le sujet. Vous connaissez hein, le principe développement, thèse, antithèse. Et leur conclusion se termine par... Victor Hugo, écrivain et libre penseur emblématique de la société des échanges mondialisée du 19e siècle, nous éclairait la maxime suivante. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Alors non, je ne me fais pas l'apologie du piratage, je suis moi-même non pratiquant, je suis personnellement contre, mais ça me fait penser à cette boutade écrite en 1996 par Linus Torvalds. C'est le créateur de Linux. Linux, c'est le système d'exploitation que l'on retrouve derrière pratiquement tous les serveurs sur Internet. Donc inutile de dire qu'il est à la base même du web. Seuls les mauviettes s'embêtent à sauvegarder sur bande. Les vrais hommes mettent leurs données importantes sur FTP et laissent le reste du monde en faire des copies. Il disait ça, c'est une provoque. Mais en vous laissant télécharger et copier nos émissions du Supplément Week-end, je suis sûr qu'il y a moins de chances que ces moments, ce moment de complicité dans l'équipe, ce moment de partage de bouquins, de films, de séries télé, qu'on vous fait découvrir disparaissent. Et surtout que ça ne reste pas sur Toulouse, mais que ça essaime à travers le monde. Et à ce sujet, pour ceux qui sont déjà inscrits au site supplementweekend.fr, ils peuvent déjà répondre à un sondage qu'on a mis en ligne, un peu malicieusement. Quel film avez-vous vu et que vous auriez bien du mal à justifier comment ? Alors dans l'eau, il y a un pilote de série télé qui n'a jamais été diffusé, un film qui n'a pas été projeté plus de 10 fois en France, un film qui n'a jamais eu le droit d'être projeté, un autre qui n'a jamais trouvé acquéreur pour être diffusé, un film amateur interdit par des avocats, deux téléfilms qui ont été diffusés il y a plus de 15 ans. Alors je suis déjà forcément surpris du nombre de gens qui disent avoir vu ces raretés. Vous pouvez voter en toute sécurité, puisque je ne relève que le fait que vous ayez voté, mais pas à quoi. Et après, peut-être que vous l'avez vu légalement. À chaque fois, il y a possibilité que vous l'ayez vu légalement. Attends, je l'ai toujours dit. Comme toutes les lois qui parlent de verrou, la loi Hadopi va contre la culture et le savoir. Mais foin de philosophie. Encore un morceau que vous n'avez pu entendre qu'en le téléchargeant sur Internet ou sur Radio Éphémère. Le projet It's Not You, It's Us. Remix Lily Allen avec des mélanges détonnants. Wouldn't be the fear, Lily Allen se retrouve contre les Beach Boys. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new. And we have to spend the day together, hold each other close the whole night through. Happy times together we Le supplément week-end sur Radio FMR. Samedi prochain aura lieu à Paris l'Ankama Convention et le samedi suivant c'est le 10e Japan Expo. À mon grand regret, je ne puis monter à Paris cette année. Vous avez compris que nous sommes bénévoles et que cette année a été difficile, donc on le fait à temps et argent perdu. Mais si vous avez la chance d'aller à Paris cet été, il y a un bouquin que j'avais prévu de chroniquer cette semaine. Paris BD, la capitale redessinée. Écrit par Thibaut Vandorselaer. Je suis désolé si je massacre le nom de l'auteur. C'est aux éditions du CIE. Alors quand j'ai reçu le dossier de presse sur la plus belle ville au monde, ça me fait penser au Malpoli.
Y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index. Nous disent non, non.
C'est chez nous qu'on est les plus cons.
Comment peut-on confondre à ce point
le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter
comme le font les copains.
Ma ville est la plus belle des villes.
Passé cette erreur de l'attaché de presse, ce livre est passionnant. C'est un guide touristique de Paris avec des circuits de visite et dans lequel il y a un historique de Paris, des monuments, des lieux à visiter, des informations factuelles, des petits détails. Et il n'y a aucune photographie. En fait, toutes les photographies ont été illustrées par des cases de bandes dessinées. Donc soit c'est les illustrations de lieux tels qu'ils sont actuellement, soit c'est comme ils l'ont été dans le passé, remis en situation, soit tels que les auteurs l'imaginent dans le futur ou dans le fantastique, ou en des lieux qu'on peut théoriquement visiter en tant que public, donc des lieux fantasmés. On découvre de vrais lieux de Paris, mais on découvre aussi des albums de bandes dessinées. Alors c'est plutôt bien fait, c'est franchement agréable à lire, avec de multiples niveaux de lecture. Je voulais expliquer aussi bien les lieux de Paris que des albums de bandes dessinées, mais surtout c'est très fourni. C'est un bouquin format A5, assez épais, il fait 360 pages, donc vous aurez du mal à le mettre dans votre poche, plutôt dans un petit sac. Et on peut faire des circuits de découverte de Paris, ils en donnent quelques-uns, des circuits thématiques. J'en reparlerai samedi prochain si j'ai le temps d'avancer dans le bouquin, parce qu'en fait, ma copine me le pique. Elle trouve ça formidable, elle découvre Paris, mais surtout elle découvre plein de bouquins. Elle me demande si je les ai. Elle d'aller chercher, hein. Non, je déconne. Donc on en reparlera samedi prochain de ce livre qui s'appelle Paris BD, la capitale redessinée par Thibaut Vandorselaer aux éditions du CIE. Et d'ici là, amis audi lecteurs, un autre extrait de Radio FMR. Celui-là est beaucoup plus récent, il date de cette semaine. C'est une émission de Radio FMR qui tente vainement de rivaliser avec la puissance du supplément week-end. C'est le magazine cinéma du mardi, qui est dans le même créneau que le supplément week-end, celui qu'on appelle les impromptus, c'est-à-dire qu'au milieu de cette station qui parle surtout de rock, de rap, découverte musicale et tout le reste, et ben entre midi et 13h, il y a ce côté culturel. Il y a une émission de théâtre de Monique Blanquet, il y en a une qui parle c'est l'émission de Suzanne qui parle de danse contemporaine. On parle aussi de sculpture, on parle aussi de photographie. C'est le créneau des impromptus entre midi et 13h. Et le mardi, Bruce réalise et anime une émission de cinéma. Ce que vous allez entendre, c'est donc ce qui s'est passé mardi dernier, le 16 juin, avec leur amicale autorisation et de remerciements.
Vous voulez vrai mec comme moi, alors là vous pointez vos pattes des rapaces. Vous vous dites ça, c'est un mauvais garçon.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Seigneur Vador, est-ce que vous m'entendez?
Oui, maître.
Speeder cochon, il peut marcher au plafond.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes.
Ciné, cure, tous les cinémas sur Radio FMR. Mardi, 12h-13h.
Hola, que tal?
Bah, bien et tout, écoute.
Si.
On fait aller.
Muy bien, muy bien.
Welcome, Mr. Diage.
Hi, man. Diage
Joe.
You know?
Et toi?
Bon, moi, ce que tu veux. Bon, taillable, corrable, merci, c'est comme tu veux. Non, c'est Pauline, salut à tous.
Pin-up. Et moi-même, ne me le présente pas, je vais pas me présenter.
Donc, Bruce Labrousse.
Ouais, Bruce Labrousse. Ah, c'est pas mal celle-là. Ouais, Bruce Labrousse.
Ça fait 6 mois qu'il t'appelle comme ça, tu t'en rends compte
pas du tout.
J'adore ça.
Aujourd'hui au programme, donc on a vu trois films différents. Oui. Alors je sais pas si chez vous c'était des bons films, mais chez moi c'était un mauvais film.
Moi, ça change.
Je sais pas, dans un moment j'entends voir que des mauvais films. Moi c'est Vignane avec Emmanuel Béart. Déjà c'est fini. Le connais qui finit.
La très lipu Emmanuel Béart. Moi de mon côté ça sera Die Welle. Je sais pas parler allemand. En gros ça veut dire la vague. Ah. Voilà une petite bombe idéologique si l'on est.
Die Hide.
Et de mon côté ce sera Flash Gordon. Non ce n'est pas Flash Gordon, c'est Flash Gordon.
On en a parlé hier, je connais pas.
On va plonger dans les méandres de la série B, de la série Z.
Z plus même,
effectivement.
Impeccable.
C'est parti. Alors, je laisse commencer Pauline.
Eh ben, écoute, j'ouvre le feu avec une news qui ne sera pas sans régaler les amateurs de petits cinémas indépendants. Il s'agit de la fameuse cité du cinéma de Luc Besson, n'est-ce pas? Il a annoncé dans une conférence de presse le week-end dernier que ça y est, son fameux projet pharaonique consacré au 7e art était enfin sur les rails. Donc, je vous lis le communiqué de presse. Implanté dans l'ancienne centrale EDF du quartier Pleyel de Saint-Denis, la future cité du cinéma imaginée par Luc Besson devrait, à partir du début de l'année 2012, c'est l'année où tout va te péter, c'est rigolo, être en mesure d'accueillir sur près de 6,5 hectares tous les intervenants de la chaîne de fabrication d'une œuvre de cinéma, de l'écriture du scénario à la post-production, en passant par la création des décors. Premier fabricant de films en Europe, avec plus de 200 films par an. Et troisième à l'échelle mondiale, la France disposera ainsi d'infrastructures de production cinématographique dignes de son rang. Comme si on avait attendu Luc Besson pour arriver à produire des trucs cools.
J'aime beaucoup cette phrase.
Moi, j'aime beaucoup.
Production cinématographique digne de son rang.
Je me demande si c'est le journaliste d'Allociné ou l'attaché de presse de Besson qui a écrit ce truc, en fait.
Non, mais moi, j'ai vu quelques images futures qui vont de ce grand. Ça existe à Los Angeles, c'est le même niveau. Hein. C'est énorme, ce truc-là. Mmh. Et d'un côté, on aime pas Besson, mais d'un côté, il fait ça, et c'est en France, je veux dire, beaucoup de gros producteurs.
Ce sera où, alors?
C'est près de Paris.
C'est près de Paris.
Saint-Denis.
C'est un, je sais pas, si vous imaginez les studios Warner ou Universal implantés dans un immense endroit où ça partira de la, quasiment, comme tu dis toi, la réalisation, production, décor, comme avait à l'époque en Angleterre le fameux studio Pinewood.
D'accord.
Voilà, ont été tournés tous les James Bond et maintenant les Harry Potter.
C'est fou. Après Hollywood, Bollywood, on va avoir quoi? Cocorico Wood, je sais pas, Cocorico Wood, ouais,
Besson,
c'est pas mal.
Besson.
Picardy Wood.
Il est parfois très mégalomane. Mais bon,
tant qu'il n'y a pas une statue de 36 mètres de lui à l'entrée, bon,
pas encore.
Bon, c'est-à-dire que c'est une future fabrique de blockbusters français européens, alors.
Voilà,
c'est ça.
Aussi.
Ouais, c'est là que va se tourner la première trilogie Super Dupont, tu vois. Je pense que c'est un truc, ouais, ça va être absolument énorme.
Alors, je suis tombé sur une news hier qui m'a fait hurler de contentement. Mister Oliver Stone, va réaliser un film sur le procès qui a eu lieu entre un certain Bugliosi et Monsieur Charles Manson. Mm-hmm. Bugliosi était procureur du procès de Manson et ce sera Oliver Stone qui va réaliser ce film. C'est l'affrontement entre Charles Manson et ce procureur général qui l'a condamné à vie pour le meurtre, les meurtres qu'on connaît. Et ça sortira juste après le film Wall Street, 20 ans plus tard, qu'il va réaliser. Et donc ce film, on n'a pas encore le nom du film, ce sera ce fameux procès qui opposa Vincent Bugliosi, le procureur, face à Charles Manson.
Rien à voir avec Bella Lugosi.
Non, du tout.
J'aurais bien vu un affrontement entre Bella Lugosi et Marilyn Manson, ça pourrait donner un super film, non ? Je sais pas.
Ils vont jeter des pieux. Au niveau du casting, t'as des news pour ce truc ou...
Aucune news. C'est le projet fait, payé, et en train de se réaliser, enfin, de monter les structures. C'est tiré d'un bouquin, justement, du bouquin de Vincent Bugliosi, qui a parlé, qui était procureur général du procès Manson, qui a fait ce bouquin-là. Donc, Oliverson a acheté les droits. Bugliosi a accepté que ce soit filmé. Donc, tout est prêt. À savoir qui va jouer Manson et cet avocat, on ne sait pas encore. Mais c'est prévu juste après la sortie, parce que Oliver Stone va réaliser Wall Street 20 ans plus tard. Mm-hmm. Juste après, ça sera ce film-là qui va sortir.
Ok. Moi, j'ai une adaptation qui me réjouit pas mal, une adaptation de comics, à savoir Y, le dernier homme. C'est un très très bon comics dont les auteurs sont Brian K. Vaughan et Pia Guerra, qui raconte en fait comment, à la suite d'une épidémie un peu mystérieuse, il ne reste plus qu'un seul homme sur la Terre. Il y a que les femmes qui ont survécu. Et non, mais je dis pas que le truc m'enthousiasme, tu vois, mais c'est juste que ça a donné un comics absolument fantastique. Et ça raconte donc, ce comics raconte l'histoire de Yorick Brown, qui est le seul mec encore vivant sur Terre, donc avec toutes les implications que tu peux imaginer pour sa tronche. Et le second truc qui me réjouit beaucoup, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de refuser le rôle de Yorick Brown, c'est Shia LaBeouf, donc, qui est toujours sur les bons plans, décidément. Le mec préfère se commettre dans Transformers et la suite d'Indiana Jones plutôt que dans ce rôle fort intéressant dans un scénario d'anticipation qui est vraiment super réjouissant à mon sens. Il a déclaré que pour lui le personnage de Yorick Brown était trop proche de celui qu'il incarnait dans Transformers, genre juste un pauvre mec trop jeune qui sait pas ce qui lui arrive. Je pense qu'il a vraiment rien compris, donc c'est bien, dégage et laisse ce rôle à quelqu'un qui le mérite, c'est cool.
JCVD, ça dit quelque chose ?
Absolument pas.
C'est un dieu, ce mec.
Jean-Claude Van Damme va tourner dans un film d'horreur.
Ah.
Qui s'appelle The Breed. Alors, il dit, c'est une excellente histoire, c'est un bon scénario, plein d'émotions. Je montre aux fans que je suis capable de changer de registre et de genre. Je voulais faire un autre film d'horreur, voici quelques années, mais le scénario était faible.
On sait qu'il est spécialiste des grands écarts.
Voilà, cool. Donc, avoir, je sais pas, moi, Van Damme mettre 2-3 coups de latte en équerre à des zombies ou un truc comme ça, moi, c'est du samedi, moi. Moi, je dis oui.
S'il faut, il mettra même pas des coups de latte, hein, ce sera un rôle
Non, il peut pas. Le fameux geste qu'il fait en faisant un grand écart
facial.
Il faut le voir au moins une fois.
Contre des zombies, c'est pas très efficace.
Peut-être, hein, c'est des zombies, on sait pas encore.
Moi, je rêverais de le voir dans un drame psychologique à Lars von Trier. Qu'est-ce que ça me ferait bader.
Il faut voir le film JCVD, justement, qui est pas mal du tout. Allez, c'est reparti pour les reboots. Vous savez, on prend un personnage, on fait un film, et après, c'est pas si bien que ça, on le refait. C'est Dédé, donc c'est Daredevil.
Oh non, pas lui, il est ridicule, pitié.
Non, mais ce sera pas le même acteur, hein, absolument pas. Ça sera.
Oui, mais le problème, c'est que ce sera le même film.
Oui, voilà.
Et la méchante qu'on va mettre dans ce film-là, ça s'appelle une certaine Typhoid Marie. Alors, je connais pas du tout cette méchante dans Daredevil.
Typhoid Marie, si, je crois qu'on la voyait justement dans Elektra, qui était un spin-off de Elektra, Daredevil. Oui. En fait, dès qu'elle s'approche d'un organisme vivant, elle le tue. Voilà, quoi.
Ça a l'air vachement bien ce type de film, dit comme ça, hein, les méchants contre les gentils avec une méchante qui tue tous les êtres vivants. Ça a l'air encore une fois un grand film très très intelligent et
intéressant. Ça promet des branches scénaristiques incroyables.
Déjà, Daredevil, moi, c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup. Alors déjà, le Ben Affleck, c'était ridicule.
Alors là, c'est qui ?
C'est pas sorti. Non, c'est pas sorti. Et en plus, c'est un scénario qu'a acheté une certaine Kate Sackhoff. C'est un des personnages principaux de la série Battlestar Galactica.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, je sais pas, Daredevil, je suis pas client, pas du tout.
Moi non plus. Une news un petit peu plus réjouissante sur le spin-off du Seigneur des Anneaux, le fameux Hobbit, donc qui sera bel et bien donc pas réalisé par Peter Jackson mais par Guillermo del Toro. Donc il confirme la présence au casting de Ian McKellen alias Gandalf, Hugo Weaving alias Elrond et Andy Serkis alias Gollum. Donc pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. À voir si je me rappelle plus du nom de Bilbo de l'acteur qui jouait Bilbo dans la trilogie de Peter Jackson.
Si c'est lui qui avait été embauché. Ouais,
alors a priori oui. Guillermo del Toro y tenait. Après apparemment c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas trop pourquoi.
Ouais, parce qu'il est âgé déjà dans le Seigneur des Anneaux. Il est assez âgé. Donc ça va être compliqué de le rendre dans sa jeunesse. Enfin en même temps aujourd'hui avec les effets spéciaux.
Sa prime jeunesse. Oui voilà exactement. Quand tu vois la tête d'Andy Serkis en vrai qui fait Gollum. Quand tu sais que le mec a été aussi embauché pour jouer le Capitaine Haddock. Je pense que tu vois que le cinéma te permet de grandes choses.
Voilà. Après Gad Elmaleh.
C'est ça. Donc Ian McKellen, Hugo Weaving et Andy Serkis seront présents dans le Hobbit de Guillermo del Toro. Ça tue.
Annulé en 2003, Futurama, cette fameuse série de dessins animés.
Ouais.
Ah, ça nous plaît,
enfin
ça.
Une chouette news.
Et donc, il y a deux. La série a été arrêtée en 2003 par la Fox. Et entre-temps, il est sorti 4 DVD de Futurama, 4 histoires différentes. Mais là, vu que Futurama était encore diffusé sur la chaîne américaine Comedy Central, une chaîne dit comique, mais ils ont remarqué que c'était les plus hauts scores d'audience. Et donc, la Fox a décidé de sortir 2 saisons de plus. De recréer 2 saisons de plus, mais surtout avec la patte de Matt Groening et David Cohen, qui sont
d'accord,
entre autres.
Donc ils remplissent.
Ils remplissent 2 ans.
Qui...
Ils remplissent 2 ans. Bien. Et ça sera à partir de malheureusement de 2010. Ah bon.
Oh non, mais on peut patienter un peu. Demain.
Demain, oui. Sinon, Paul Verhoeven va faire un film, ça vous branche?
La semaine dernière, ça déjà. Paul Verhoeven. Si, vas-y, c'est lequel alors?
Là, il est en train de travailler sur un film qui s'appelle The Surrogate. Un thriller.
Ouais, j'en ai entendu parler, ouais.
Moi, Verhoeven, j'ai un peu lâché, hein, franchement.
Verhoeven ? Ah, mais ouais. Ça se lâche pas, ça. Le mec, il trouve une nouvelle provoque par film, tu rigoles, quoi. Mm. Enfin, j'avais pas vu The Black Book, qui parlait d'une juive qui infiltrait les nazis. Mais bon, enfin, pour moi, Verhoeven, y a sa gueule en face du mot provoque dans le dictionnaire, quand même. J'aime bien ce type, moi.
Sinon, t'as pas news, j'ai Geometa, une info, à nous faire passer à l'antenne, à faire gagner des trucs.
J'ai pas compris ce que t'as dit.
Pour faire gagner Rock au cinéma,
Rock au cinéma, d'accord. Rock au cinéma. Donc, FMR est partenaire de la Cinémathèque de Toulouse sur le cycle Rock et Cinéma qui se déroule donc, qui a commencé le 2 juin et qui se terminera le 30. Plein de films tirés de l'histoire un petit peu, du rock au cinéma, comme son nom l'indique. Plein de trucs, hein, on vous l'a dit dans la bande-annonce juste avant l'émission, mais il y a du 24 Hour Party People, du Walk the Line, du Ziggy Stardust. Du Jimi Hendrix à la
Isle of
White,
Pink Floyd.
Voilà, il y a plein de choses. Il y a Death on Arrival, enfin plein de trucs. D'où viens-tu, Johnny? Tu l'attendais celle-là.
C'est lui qui nous l'a dit, qui doit le dire.
D'où viens-tu, Johnny? Qui a l'air assez fantastique.
Tu l'as vu ce film, toi?
Non. Ça sera l'occasion d'une autre chronique peut-être plus tard. Voilà, en attendant, on peut vous faire gagner des places avec FMR. Pour la séance de votre choix, vous nous appelez au 05 61 580 580. C'est à la Cinémathèque de Toulouse. Vous avez les infos sur le www.lacinémathèquedetoulouse.com et vous nous appelez pendant le morceau. Bruce, c'est quoi le morceau qu'on va s'écouter?
Tu vas connaître.
Je vais connaître, bon.
Vas-y, Blake.
05 61 580 580, si vous voulez les places pour la Cinémathèque, n'hésitez pas, c'est un chouette cycle, et nous, on soutient l'initiative avec la radio. Appelez. Ah non, t'es pas prêt? Ah si.
Voilà, qu'est-ce...
one another with only one purpose. So you all kill each other with one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. And justice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We didn't see it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! 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 Minorities, the Ku Klux Klan, or fucked up authorities, conservative cunts and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life to say it's free from sin, then they judge another person by the color of their skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and the rating of this special by the color of your face. You got a one-way ticket to a dead-end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space to form a lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga, 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 nigga! 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 You're the real niggas! Nigga! You're the real niggas! Nigga! You're the real niggas! Nigga! You're the real niggas.
C'est quoi? Ça m'énerve! Je sais qu'on sait!
Série américaine, il y a eu 3 saisons.
Ah oui, putain!
Star Trek!
Non!
Non, pardon!
Dexter!
Il y a eu 50 saisons.
Dexter, voilà. Ça sera le mini de fond. D'accord. Alors, moi je vais la torcher cette chronique d'un film parce que bon, je vous montre un papier, voilà.
D'accord, il y a 4 lignes.
Il y a 4 lignes.
2, oh, vous êtes méchant, il y en a 6.
6 lignes, pardon, 6 lignes.
Le film s'appelle Vinian, c'était sorti en DVD il y a à peu près 2 semaines. Vinian, c'est un film avec Emmanuel Béard. Alors, pourquoi j'aurais dit un film avec Emmanuel Béard? Parce que c'est vrai que quand vous lisez un magazine comme Mad Movies, ce film a été encensé par ce magazine. Parfois, il dit des conneries. Alors, Vinian, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une certaine Jeanne et Paul Bemer qui ont perdu leur fils lors du tsunami.
Mm-hmm.
Et donc, Paul Bemer, qui est un sort d'architecte, on leur propose de repartir là-bas où il y a eu le tsunami pour reconstruire des villages qui ont été dévastés. Et donc on leur donne une sorte de DVD pour montrer l'endroit où il faut construire. Et là dans le DVD, Jeanne, donc Emmanuel Béard, pardon, croit reconnaître son
fils. Parle pas comme si tu avais ses lèvres, s'il te plaît.
Croit reconnaître son fils dans le DVD et décide donc d'aller avec son mari et essayer de le retrouver. Donc c'est tout un chemin en Thaïlande, etc. De village en village, parce qu'on dit que dans ce village-là, il n'y a que des enfants, dans un autre village, il n'y a que des enfants blancs, etc. Et c'est toute la progression de ce couple-là qui va de pire en pire. Et Emmanuel Béard ne lâche pas l'affaire, donc il s'accointe avec des sortes de trafiquants d'armes pour aller d'une île à une autre. Et on voit Emmanuel Béard, visuellement, physiquement, elle a un rictus toutes les 30 secondes.
Mais pas
de la bouche, hein, je précise, parce que c'est bien siliconé, ça bouge pas la bouche.
Ça bouge à une vie propre.
Alors,
de toute
comment est-ce que tu fais pour avoir un rictus sans bouger la bouche?
Les yeux.
Les sourcils.
Un rictus des yeux.
Des yeux.
D'accord.
Un rictus des narines.
Un rictus même, des yeux, un rictus des narines.
J'ai cru apercevoir un rictus des oreilles, presque.
Oh putain.
Regarde, là, je te fais un rictus des narines, par exemple.
Ça a l'air très très bon.
Alors, c'est vrai que c'est une sorte de rentrer dans un enfer. Jeanne qui décide d'aller dans un autre village, pour dire mais il y a mon fils, son mari commence à péter un boulon, donc il essaie de dire au trafiquant, donc tu lui dis à ma femme n'y pas aller parce qu'il n'y a pas d'enfant là-bas, mais elle y va quand même. Et c'est vrai que dans le Mad Movies, quand vous voyez les photos, il y a des photos où on voit des enfants peints, bariolés, et là dans l'article de Mad Movies, ils disent oui, c'est une histoire d'enfants, attention, les enfants sont pas si gentils que ça. Et on arrive dans un village où il n'y a que des enfants. Oui, bariolé, peint, etc.
Je trouvais que c'était le peu que j'ai vu des photos, on dirait des miniatures parodiques des mecs de Cannibal Holocaust, les gosses de Lignan.
Eh, c'est pas loin, c'est pas loin. Et donc, ils arrivent enfin d'arriver dans un village où on voit un enfant blanc au milieu de plusieurs enfants thaïlandais, peints, etc. Et dans une sorte de corridor, dans une sorte d'un temple, on voit des corps d'adultes dévastés, en morceaux, étripés. Et là, bien sûr, Jeanne, donc Béard, dit lui, c'est mon enfant, je veux pas le reperdre. Mais son mari comprend que c'est pas son enfant et que les enfants qui sont là, c'est eux qui font la loi. Il n'y a pas d'adultes dans ce village-là, il n'y a que des enfants et chaque adulte qui rentre est tué. D'une façon
c'est
très,
Peter
très,
Pan Gore, quoi, leur truc.
D'une façon très, très rare, parce qu'ils sont étripés à main nue, les adultes.
Ouais, donc elle va se faire étriper à main nue,
Non, elle va
et
rester.
Ils sont mis à 10 pour la bouche.
Ils sont moins de 200, 300. Et non, puisque, si, bizarrement, les enfants attendaient que quelqu'un vienne, surtout une femme, histoire, mais sur des enfants et de la mère. Et son mari.
Oh, elle devient la maman du village. Oh, ouais, oh c'est trop mignon.
Et donc, le mari se fait, lui, étriper, arracher toutes les parties de son corps par les 200-300 enfants. Et à la fin, on voit cette Emmanuelle Béard. Ah, par contre, là, je précise, jamais vu autant de pelotage d'un corps d'une femme par des enfants. Ils sont 400 à la peloter de partout, Emmanuelle Béard. Assez.
Ah, t'as kiffé ça?
Mais j'ai kiffé
C'était la scène qui a fait que le mec il a eu les financements, tu sais.
Peut-être, voilà. Peut-être. D'accord. Alors c'est vrai que le moment où le mari se fait déchiqueter à main nue par les enfants, c'est assez hard. Et le fait à la fin, cette image très romantique des enfants qui caressent le corps d'Emmanuel Béard. J'appelle ça du pelotage.
J'imagine les mecs en brainstorming.
Ah, grave.
Alors qu'est-ce qu'on va faire pour avoir nos financements? Ouais, moi j'ai une super idée, les gars.
Alors tu vois, pour surfer sur la vague du porno gore à la Eli Ross, je pense que Béard faut la mettre à nager. Tu
ouais,
vois ce que je veux dire?
Avec que des enfants.
Des enfants. Donc ça s'appelle Vignane, à ne pas louer, à ne pas acheter, à ne pas regarder. Franchement, j'espère que l'année prochaine, je verrai un film qui me plaira, parce que là, je commence un petit peu à saturer.
Tu peux pas taper dans le nanar italien, tant qu'à faire.
Il n'y en a pas étonnamment, il n'y en a pas beaucoup en ce moment.
Ouais, mais là, c'est vraiment ce que ça m'évoque, ce que tu me racontes.
Complètement.
Quoi.
C'est vrai qu'il y a de beaux plans, de la jungle, etc. On voit des villages, des familles. Bon. Mais bon,
après c'est des films de genre, hein. On disait tout à l'heure voilà, on tapait sur Besson en disant qu'il nous faisait de la merde blockbuster, etc. Bon, effectivement c'est intéressant qu'il y ait ce type de film là qui arrive aussi
Vignane
sur nos platines.
A surfé sur le fait que des films comme Martyr soient sortis, comme des films voilà.
Ouais, ça a été fait avant, après
en même temps, quasiment
en même temps. D'accord.
Au cinéma ça a duré la sortie du film a duré 2 semaines, là c'est en DVD. Et c'est vrai que ça joue sur la sortie des Martyrs, des films français gore, avec voilà. Donc et ça passe pas parce que on attend qu'une chose, c'est que ça dépote un moment, mais ça dépote pas. C'est très romantique, c'est très. Mais c'est vrai que le mari se faire étriper par des enfants, ça c'est pas mal, c'est bien fait. Et cette scène finale.
Moi je pense que dans 20 ans, il y aura des mecs comme moi qui iront chercher ces trucs-là. Et qui diront, putain, on a trouvé des Z français. Il y a eu toute une série à une époque, et ils en feront des super chroniques.
Voilà. Donc Vignane, c'est le nom du village où se retrouvent 300 enfants. Bon, je sais pas.
Si vous voulez vraiment voir une histoire d'enfants perdus dans la jungle, checkez-vous plutôt La Forêt d'Émeraude de John Boorman ou Le Livre de la Jungle, tant qu'à faire. Hein, voilà quoi.
Voilà.
Ce sera beaucoup plus intelligent, je pense.
Voilà, je sais pas.
C'est fini?
Ouais, voilà.
Ah, c'était bien.
Tu as l'air consterné.
Ah, complètement.
C'était
j'ai essayé
bien.
J'essaie de voir un film bien pour la semaine prochaine, parce que moi, ça me gonfle.
N'hésite surtout pas à voir des trucs cool.
Essayez, ouais, essayez.
C'est difficile, hein. Y a pas le dernier Terminator, là, qui est sorti?
Je l'ai pas encore vu. Mais
hein tu te tâtes, hein, tu sais pas, hein.
Tu vas te choper la version canadienne sous-titrée effet alternatif.
Ou peut-être, je vais vous parler de La Nuit Musée numéro 2.
Oh, punaise.
On a dit qu'on parlait de films bien.
Ben, je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore.
Non, moi j'ai vu le 1, je trouvais ça bien, mignon, moi. Film popcorn, sympa.
Je pense que l'enfer personnel de Bruce est peuplé d'écrans avec du clochabrol dessus, tu sais.
Ça doit être
et que
ça.
Des films biélorusses.
Non, pourquoi je le verrai? Parce qu'il y a Alain Chabat qui joue Napoléon.
Oui.
D'accord. Ouais. Et Ben Stiller, t'en fais quoi?
Rien du tout.
Moi non plus, c'est bien.
Et avec cet intermède musical, FMR vous propose de remporter des places pour la session rock et cinéma à la Cinémathèque de Toulouse de 2 au 30 juin. Vous faites le 05 61 580 580 et vous allez voir le film que vous voulez. 05 61 580 580, on vous invite, il y a plein de films super rock, il faut y aller.
J'adore quand tu fais la pouf de type chaîne câblée comme ça.
Pourquoi on se fait chier à faire des bandes annonces? Il y a des gens là.
N'est-ce pas?
Ouais, on va te recruter. Ouais.
Dreams to fall.
toujours sur la musique de Dexter.
Ça aussi, c'est Dexter ?
C'est toujours Dexter.
Faut vraiment que je creuse cette série, c'est pas vrai. Oh non, c'est trop gnangnan pour du Dexter.
C'est voulu. Il y a trop gnangnan. Il y a le moment où c'est Love, le Dexter. Enfin, passons. Qui engage ?
Bah écoute,
attends, on va faire Shifumi. Faites-moi un Shifumi.
Ok.
1, 2, 3.
Mi.
Ah, c'est Pauline.
Ok. Le petit ciseau, ça marche toujours. Eh bien, pendant qu'on fumait notre clope à l'extérieur du studio Art Rutilant de FMR, je me suis rendu compte que c'était pas de un seul film dont j'avais envie de vous parler, mais bien de deux. Alors, je fais quoi ? Je fais l'option réjouissante ou l'option pas réjouissante du tout en premier, les garçons ?
Option D, Obi-Wan Kenobi.
Après Vignan, un truc bien, quoi, s'il vous plaît.
Ok. Alors, j'allais vous parler tout d'abord de la Vague, ce fameux film qui parle d'élèves de terminale qui se transforment en petits nazillons. Mais d'abord, Breaking News, le nouveau Sam Raimi, Drag Me to Hell, alias Jusqu'en Enfer. Je l'ai vu ce week-end, c'est juste la bournifle, la tartagne, la torgnole, c'est tout ce que vous voulez. C'est génial. Donc, Raimi, qui avait été absent de son genre de prédilection, c'est-à-dire l'horreur comico-parodique donc de Evil Dead, par exemple, parce qu'il avait été squatté sur la franchise Superman pendant une bonne dizaine d'années, on va dire.
Spider-Man,
oui, voilà. Qu'est-ce que Spider-Man. J'ai dit J'ai
Superman.
Dit Superman hein, jamais de la vie, jamais il aurait fait ça, faut pas rigoler non plus. Donc, après avoir arrêté de se gonfler le mou tout seul avec Spider-Man, il revient aux sources, donc, avec Jusqu'en Enfer. Alors, la première surprise pour moi, ça a été le casting. L'héroïne et son petit copain qui sont joués respectivement par Alison Lohman et Justin Long, c'est-à-dire deux des nouveaux couteaux de la nouvelle scène hollywoodienne, ce qu'on appelait des jeunes premiers et des starlettes avant, finalement. Qui pour le moment se commettaient dans des rôles assez inconsistants, c'est-à-dire la blondinette girl next door
et le bal de promo
et le bal de promo voilà et le bon pote qui se tape jamais l'héroïne voilà.
J'ai fait le film dans Dance of the Dead, ça sert. Hein.
Oui bah là ils auraient tout à fait pu jouer dans Dance of the Dead ces deux-là, sauf que Raimi les a particulièrement bien mis en danger dans Jusqu'en Enfer, qui est donc une histoire pas de possession satanique, mais plutôt un conte à rebours diablement réjouissant. En gros, ça raconte l'histoire de Christine, qui est une jeune employée dans une assurance immobilière. Au début du film, vous comprenez qu'il y a certains trucs dans sa vie qui sont pas réglés, mais que globalement, elle est au début d'une carrière assez épanouissante. Elle a donc son petit copain incarné par Justin Long, qui manifestement, a une relation assez cool avec elle. Mais tu sens quand même qu'elle est encore assez hésitante sur certains points, et notamment sur le point de sa carrière. Elle brigue un poste d'assistante de direction que pour le moment elle mérite pas trop parce qu'elle est pas capable de prendre des décisions radicales, jusqu'au jour où une vieille gitane vient la voir à son bureau pour la supplier de lui accorder une troisième et dernière hypothèque sur sa maison avant que les huissiers la saisissent. Alors Christine, qui a plutôt bon cœur, va quémander cette autorisation auprès de son patron en lui disant: on peut pas foutre cette vieille dehors, c'est pas possible. Et son patron lui dit: oui, enfin, rappelez-vous que vous brillez une promotion. Enfin, je vous fais confiance, je sais que vous prendrez la bonne décision. Oui. Alors, évidemment.
Il lui dit: fais attention, tu as vu qu'en République tchèque, ils ont voté la solution finale pour les Roms. Non, il lui dit pas ça. Non.
Bon. Non, il lui précise même
Quel
pas
enfoiré.
Ça. C'est, ça,
non,
ça va
c'est
même
vrai,
pas
c'est pas moi l'enfoiré.
Non, mais pourquoi tu sortes ça d'un film comme ça, c'est fort, quand même.
Non.
Oh, mais tu sais, c'est Rémi, il aurait pu, hein, franchement.
Tout à fait.
Hein, mais exactement.
Il a fait Booba Hotep, hein, je Booba tiens à le préciser.
S'il te plaît, quoi. Avec un combat d'infirme à la fin, s'il vous plaît.
Oui, d'ailleurs, je t'ai coupé. Rapidement, je reviens sur le casting.
Vas-y.
Est-ce que tu sais si il a eu dans l'idée d'embaucher Bruce Campbell là-dessus?
Non, parce qu'il avait déjà consacré un film entier à Bruce Campbell,
oui,
il y a quelques années de ça.
Il joue son propre personnage.
Voilà, où Bruce Campbell au chômage arrivait dans une petite ville reculée où tout le monde le prenait effectivement pour le héros de Evil Dead au moment où un monstre dégueulasse débarquait d'une autre dimension.
Bon, d'accord.
Tu vois, voilà. Donc là, il a choisi de se consacrer à la nouvelle génération, si tu veux. Donc Bruce Campbell aurait été un petit peu incongru dans ce film,
ouais.
Je t'avoue, qui est plus qui fleure plus bon le gothique et le vaudou que le massacre de morts-vivants et les dimensions parallèles. Donc en gros, Christine, pour en revenir à l'histoire, va prendre une décision radicale, c'est-à-dire qu'elle va refuser le prêt à la vieille femme. Mal lui en a pris, je crois qu'elle a pas bien bossé son petit Stephen King. On ne refuse jamais rien à une gitane avec un œil de verre.
Jamais.
Jamais de la vie. Donc la gitane lui jette le mauvais œil parce que c'est en fait... oui, voilà. C'est du verre blanc, ça porte pas bonheur par contre ce coup-ci. Et Christine se retrouve sous l'emprise d'un sort, le sort de la Lamia, qui est un démon de je ne sais plus trop quelle mythologie. Et elle a 3 jours pour empêcher que les démons viennent la prendre et l'amène en enfer pour toujours. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dévoiler la fin du film, ni même ses tenants et aboutissants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film a été unanimement encensé par la critique. Surtout les mecs de studio qui disaient « Gare aux usurpateurs », en fait, qui se sont amusés pendant 10 ans, « Papa est de retour ». C'est tout à fait ça. La patte Rémy, elle est assez particulière. Et moi, je suis pas une aficionado de ce type. Tu vois, j'ai même pas vu la moitié de tous les Evil Dead. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y en a trois. Ouais, bon, t'inquiète pas, je m'en chargerai cet été. Il y a quelque chose... J'ai retrouvé quelque chose de l'esprit Branded dans ce film-là. Les premiers Peter Jackson. C'est de l'horreur qui glace vraiment, mais qui fait rire en même temps. Du coup, on a un double hockey à la fin du film. Et c'est vraiment trop bon comme sensation. Ne serait-ce qu'au niveau organique, mais aussi mental. J'ai sincèrement sursauté. Il y a des fois, mais je me suis vraiment accrochée à mon siège. Pas de la manière glaçante d'un rec, par exemple, hein, pas du tout. C'est juste que Rémy évite les grosses ficelles, notamment celle de la bande originale avec le violon qui s'accélère quand il va y avoir une porte qui va se défoncer, par exemple. C'est pas du tout ça. Rémy, il évite toutes les facilités du genre.
Une question, ouais. Parce que Sam Rémy, dans les fameux Evil Dead, il y a toujours un truc où c'est... je me rappelle dans le premier Evil Dead, c'était la grand-mère qui était dans la cave, qui arrêtait pas tout le long du film de sortir. C'est un truc qui revient à chaque fois. Mm-hmm. Dans le 2 aussi, dans le 3 aussi. Est-ce que dans ce film-là, il y a pas un personnage ou un truc où tout le long du film, ça revient, qui ça énerve?
Je t'avoue que non.
Non.
Il y a aucun moment qui est agaçant. Il y a aucun personnage sidekick, d'accord, tu vois, voilà, ouais, c'est non, c'est de l'horreur pure. Chacun des très peu nombreux personnages du film finalement a une substance bien à lui, notamment ce personnage de gitane spectrale qui est à hurler de terreur. C'est son premier affrontement avec Christine m'a littéralement vidé de tous mes fluides, c'était atroce. Mais à côté de ça, j'ai ressenti une... Mais arrêtez de rigoler, non, on n'a pas le droit de parler librement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal, 89 points imprimés sur les fluides, voilà, tac. En gros.
Ça, celle-là, je la connaissais pas, celle-là.
Moi non plus. Ça, c'est cool. En gros, pour finir sur Drag Me to Hell jusqu'en enfer, c'est réjouissant, ça fait vraiment super peur. Enfin, peut-être que je suis une fille de mon temps aussi, je sais pas. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment une réussite totale. Et, pour une fois, allez le voir sur grand écran. Si, Bruce. Oh, que si. Oui, si. C'est une bonne grosse bournifle. C'est vraiment le grand 8 du cinéma d'épouvante. J'ai adoré ça. Bravo, Sam Raimi. Donc voilà. On va passer à un truc qui est complètement différent.
Musique, vite fait, allez, un petit morceau rapide. Musique, temps de rappeler que vous faites le 0561-580-580 et vous gagnez des places pour aller voir le cycle Rock et Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse qui se déroule du 2 au 30 juin. Vous nous appelez surtout. 0561-580-580.
Là, c'était du film Judge Dredd. Mais c'est en live. We'll be right back. Tu disais quoi, papa, maman?
Seul, voilà, c'est génial. Voilà.
Super Charger Event en live de White Zombie, c'est un morceau qui était dans le film George. La scène était quand une sorte de Ferrari volante est arrêté, le mec à sa poste radio à 300 décibels, et George il aime pas ça. Donc il fait ta voiture.
Parce que la loi c'est lui.
La loi c'est lui, voilà. Moi j'aime beaucoup moi ce personnage, même par Stallone.
De George Red.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est le concept que tu kiffes parce que Stallone un peu moins s'il te plaît quoi. Rassure-moi.
Dans ce film-là il le fait le mec, tu vois, ça j'aime beaucoup.
Ouais, c'est comme Béar, c'est Stallone il se résume à sa bouche en fait quoi.
Voilà. Même mais combat. On voit pas beaucoup sa tête hein, parce qu'il a le casque et tout. Mais
c'est
bon.
Ce que je te disais.
Voilà, mais j'aime bien le.
Ok, on passe à quelque chose avec 20 points de QI en plus si ça vous dérange pas les chéris. Bah oui. Écoute, il faut bien une caution intellectuelle dans cette émission, que tu veux, je te dis. On passe à La Vague donc de Dennis Gansel qui est sorti il y a quelques mois sur nos écrans. Dennis Gansel qui est un jeune réalisateur allemand. Je ne vais pas vous citer les films qu'il a fait avant parce que ça ne vous dira strictement rien. Mais maman non plus, je ne les ai pas vus. Mais là, avec La Vague, il a frappé très fort. La Vague, c'est quoi? De base, c'est l'histoire vraie d'un professeur d'histoire qui s'appelle Ron Jones, qui a pratiqué l'expérience que je vais vous décrire, voilà, qui a donné lieu au scénario du film. Mais c'est aussi un roman de Todd Strasser, qui est un classique de la littérature allemande depuis une vingtaine d'années. La Vague, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un jeune professeur qui s'appelle Rainer, qui est un professeur de sport et d'histoire. Dans un lycée d'Allemagne de nos jours. Un mec très cool, hein, vous allez voir.
Il fait courir autour d'un stade en leur faisant répéter les leçons, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Il est professeur de water polo. C'est important pour la suite de l'histoire. Et la première scène du film, vous le voyez dans sa vieille guimbarde en train de se rendre au lycée à toute berzingue en chantant très fort sur la reprise de Rock'n'Roll High School des Ramones. Bon, alors déjà voilà. On a un petit peu peur du film d'Emago de prof trop copain avec ses élèves.
Encore un film de gauchiste.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. De mangeur de patates, écoute.
Comme le film français qui a été récompensé là.
Entre les murs.
Entre les murs.
Ouais, non, mais ça c'était pas d'Emago, crois-moi.
Ouais, moi je trouve.
Non, je l'avais chroniqué ici et justement ça avait bien évité tous les écueils d'Emago qu'on pouvait reprocher à ce genre de scénario. Enfin bref, dans La Vague. La semaine commence, parce que ça c'est une histoire qui se déroule en 7 jours, un petit peu sur le modèle de Battle Royale, justement, on va y arriver. Pour décrire en fait ce qu'on appelle une expérience pédagogique, c'est-à-dire que pendant une semaine, les élèves choisissent des thèmes sur lesquels ils vont travailler tous ensemble en atelier, que ça soit des thèmes historiques, sociologiques, tout ce que tu veux. Et donc la classe de Rainer va se pencher sur le sujet du totalitarisme. Alors, qu'est-ce que le totalitarisme? C'est expliqué pendant les 5 premières minutes du film, c'est très bien décrit par une élève. C'est en fait, le totalitarisme, c'est quand un groupe réduit d'individus décide pour tous les autres. Au début du film, Rainer explique à ses élèves qu'il n'y a pas que le nazisme qui a fonctionné comme ça. D'ailleurs, quand vous voyez la réaction de ces jeunes Allemands de la troisième génération, voilà, post-Troisième Reich, c'est très très intéressant parce qu'ils sont tous, ils refusent de se sentir encore coupables, de ressentir cette terrible culpabilité qui a poussé pendant les années 60 beaucoup de jeunes Allemands à se suicider quand ils avaient découvert les agissements de leurs parents. Cette génération-là, qui a sensiblement notre âge à peu près, plus ou moins, refuse cette culpabilité-là, mais aussi affirme que les erreurs de ce passé-là ne pourront pas se reproduire, qu'il ne peut plus y avoir de régime fasciste en Allemagne. Tout simplement parce que voilà, ce qui s'est passé avec le Troisième Reich les a trop marqués au fer rouge pour toujours. Ils pensent sincèrement que le fascisme ne pourra plus jamais exister dans leur pays. Et ce que veut faire leur professeur, Rainer, c'est leur prouver qu'ils ont tort, en leur faisant, pendant 7 jours, recréer un régime totalitaire. Alors, il va évidemment
ils en
pas
sont
leur dire.
Conscients, les élèves.
Justement, c'est ça qui est très intéressant. Il va pas leur dire direct, on va recréer un régime fasciste. Non, pas du tout. Il est beaucoup plus vicieux que ça. Il commence à leur apprendre tout simplement comment se sentir bien dans une communauté, comment créer une communauté autour de certaines idées. Et comment ne plus fonctionner que comme une seule entité. Alors ça passe par l'apprentissage de la marche à deux temps, voilà le fameux claquement de bottes qui est devenu le pas de loi qui est effrayant pour la plupart des gens, mais dont vous allez découvrir que ces élèves ça les amuse pas mal. Au début c'est une occasion de faire du bordel pour la classe en dessous, puis finalement ça va commencer à les amuser plus que prévu.
Ouais, ça rappelle le jump style un peu.
C'est ça, ouais, voilà, c'est le jump style mais en plus abordable, tu vois, voilà. Après, ça va être par le port de l'uniforme pour gommer les différences sociales entre eux, entre ceux qui peuvent porter de grandes marques et ceux qui peuvent pas se le permettre. Ça va être aussi l'élaboration d'un signe de reconnaissance, la fameuse vague dont
qu'on fait gestuellement.
Qui est le titre du film, c'est la gestuelle, le signe de reconnaissance qu'ils ont tous. Et qui donc finalement, vous l'aviez bien compris, vous en tant que spectateur, s'apparente au salut nazi, ni plus ni moins.
Au salut romain.
Aussi, ouais. Donc par le biais de tous ces petits moyens-là, ce nouveau mouvement lycéen, qui s'appelle donc La Vague, va déferler sur ces esprits un peu trop tendres, un peu trop innocents, pour aboutir à une conclusion complètement tragique au bout des 7 jours du film. Je peux pas vous dire ce qui va se passer exactement, je peux pas vous révéler toutes les intrigues du film. Le truc, moi, qui m'a vraiment pris à la gorge, c'est de réaliser que le réalisateur du film, Dennis Gantz, a fait exactement ce qu'il voulait de son film, c'est-à-dire nous endormir, même nous autres spectateurs, créer une espèce de mise en abîme psychologique pour nous prouver tout en douceur, comme si on était sous son narcoleptique, que le contrôle peut vite nous échapper, en fait. Voilà. Ce qu'il disait dans un des communiqués de presse au moment de la sortie de La Vague, c'était que nous étions donc dans une période de crise, ça je vous apprends rien, et que c'était toujours dans ces moments de vide idéologique, de crise sociale, que les mots en isme pouvaient réapparaître. Voilà. Et moi j'ai trouvé très intéressant de situer l'action de cette histoire-là en Allemagne, qui est peut-être le pays au monde, c'est clair, où les gens ont été le plus traumatisés par leur passé, quoi. Voilà, quand on dit fascisme, forcément on pense au Troisième Reich. Est-ce que pour autant le passé est si facile à ingérer que ça? Est-ce qu'on n'a pas tendance à très très vite oublier des erreurs même cruciales, même tragiques de notre passé et à les refaire joyeusement? La plupart des psys pensent qu'on est tous dans une logique de répétition dans nos vies, dans la répétition des erreurs. Le film de Dennis Gansel, eh ben, nous le prouve vraiment par A plus B, quoi.
Peut-être qu'il faudrait voir ce film juste avant, en regardant aussi le film La Chute, et se coller derrière ce film-là, ça serait intéressant.
Exactement, tout à fait.
La Chute, qui est les derniers 40 jours d'Hitler dans le bunker Berlin, et en même temps de coller derrière, qu'on fait chez vous un visionnage, voir ce film La Chute et se coller derrière ça. Ça peut faire très très froid dans le dos.
Oui, tout à fait, exactement. Voilà. Donc voilà, moi,
c'était
perso...
C'était le mot de Bruce pour passer une bonne soirée.
C'est ça. le
si vous voyez un lundi arriver habillé en noir, comme toujours, mais avec un bandeau sur l'épaule, sur le bras de gauche...
Bah d'abord, on casse la gueule, après on discute.
Les cheveux coupés, la petite moustache, vous faites attention les filles. Hein.
Oui, bah d'accord, ok. Non, mais on te laissera même pas le temps de parler, je pense. Bref, le totalitarisme de gauche, j'adore ça aussi. Bref. Tout ça pour dire que, perso, je serais un prof d'histoire de collège ou de lycée, je penserais fortement à diffuser La Vague de Dennis Gansel à mes élèves. Voire même en début d'année avant d'attaquer le programme. Histoire
et ensuite prévoir un plan de secours parce que le chômage arrive très vite dans ces cas-là.
Mister Diageo.
Yes. Écoute, un film fantastique comme à l'habitude. Flèche Gordon.
Flèche, la chair.
Flèche, non, c'est pas la flèche des Indiens, non, c'est Flèche, la chair. Hein, on est d'accord. Ouais. Donc Flèche Gordon, 1974, espèce de parodie érotico-kitsch de la fameuse série Flash Gordon, n'est-ce pas? Voilà, Flash Gordon. Bruce, tu peux peut-être nous en dire deux mots. Tu sais qui c'est, Flash Gordon?
Oui, le personnage,
personnage créé dans les années 30, les comics américains redonner un petit peu le moral à toute une population qui est en train de perdre tout son argent. Donc il a été créé en même temps que des Captain America et ce genre de trucs dans les années 30. Et du coup, cette parodie des années 74, donc Flash Gordon, réalisé par Michael Benveniste et Howard Zaim, c'est super intéressant parce que voilà, vous n'en entendrez plus jamais parler. Donc avec Jason Williams et Susan Fields, pareil. Voilà, budget $700,000, $900,000 de recettes, ce qui est pas négligeable quand même pour un Z. Et on va passer de suite au plat de résistance. Flash Gordon, c'est une sombre merde, mais une merde réjouissante comme je les adore. À savoir que c'est un film qui est ultra daté, très très moche. Très très con, mais fantastique tellement il est second degré. Donc faut savoir que dans ce film, Flash Gordon, je l'ai dit, parodie érotico-kitsch,
tout est prétexte à montrer la nudité, n'est-ce pas? Donc je le précise, c'est un film qui a été interdit au moins de 17 ans, donc rated R aux États-Unis. Donc c'est pour ça, c'est chronique interdit au moins de 17 ans, hein, attention. Ou alors accompagné, si vous avez vos parents à côté, c'est cool.
Sinon, pampan cucu.
Donc tout est prétexte à montrer la nudité, le nom des personnages sont tout à fait ridicules, le professeur, un des professeurs qui accompagne Flash Gordon s'appelle le professeur éjacule, n'est-ce pas? reine.
En anglais, ça donne quoi?
Steph Jerkoff, ou un truc comme ça. La reine. Alors voilà, donc je replace le scénario. Le monde est en proie à une catastrophe fantastique. L'empereur Wang, le méchant empereur Wang dans l'espace a pointé son rayon sexuel sur la Terre et des particules de sexualité inondent toute la Terre, ce qui fait que les gens sont pris irrémédiablement d'envies subites, d'orgies incontrôlables. La Terre est en proie à la sexualité la plus débridée et évidemment le seul qui n'est pas touché par ça, c'est Flash Gordon, notre bon héros grand, blond, musculeux, voilà.
Tu sais, Pauline, il me fait peur là.
D'accord, non,
il me fait peur là.
Moi, il me fait trop plaisir.
Ah non, mais c'est génial. Donc notre Flash Gordon est le seul, évidemment, à pouvoir sauver la planète Terre
de ces
ébats-là incontrôlés. Donc on voit une scène où effectivement il y a un avion. Flash Gordon est dans l'avion. Une jante demoiselle arrive. Bonjour Flash, est-ce que je pourrais m'asseoir à côté de vous? Faut savoir que l'avion c'est une espèce de cabine dégueulasse avec des sièges en osier. Donc si jamais vous prenez un avion comme ça, ne montez pas dedans, descendez. Et effectivement prendre dans le rayon sexuel et s'ensuit une orgie folle furieuse dans l'avion où
on voit des zigounettes.
Alors je t'ai dit tout est prétexte à montrer la nudité, donc c'est très peu montré, hein, les zigounettes etc, mais on voit les corps et d'ailleurs la scène dans l'avion est assez flippante, cette espèce d'orgie, on dirait des zombies en train de manger des cadavres, hein, tu vois, c'est un peu ça, ça bouge de partout, il y a des corps de partout, c'est un peu bizarre. Donc voilà cette scène là arrive, les deux commandants disent tour de couille troll, nous avons un problème et du
mais
coup
tu l'as vu en version française.
Je l'ai vu en version française, les doubleurs se sont régalés, c'est du même niveau que Ken le survivant pour les doublages, hein, je précise. Et effectivement, donc les deux pilotes de l'avion se joignent à cette fantastique orgie et Flash Gordon saute en parachute avec une donzelle qu'il sauve. Il tombe dans un endroit, voilà. Bon, bref, on passe les détails. À côté du laboratoire du docteur Éjacule, ils prennent un vaisseau spatial et ils vont sur la planète du méchant Wang pour essayer de le contrer et d'enrayer cette espèce de folie furieuse qui prend la Terre. Hein, n'est-ce
pas ? Ça a
l'air
vraiment très intéressant.
Alors c'est fantastique. Faut savoir que là-bas, donc ils atterrissent sur cette planète. La reine, l'espèce de reine de la planète s'appelle Amora, ce qui donne lieu à des répliques fantastiques.
Oui.
Cette Amora, elle commence à me faire monter la moutarde au nez. Tu vois, ce genre de truc très très bon,
humour, très, 70,
très intéressant
très
et bon voilà, ils tombent sur des espèces de dinosaures en forme
de tub,
hein, qu'ils appellent donc des bitosaures. Voilà, tout ça pour dire que ce film est véritablement grandiose. Alors comme
mauvais.
Je l'ai dit, voilà, bon, le scénario est mauvais, les décors sont mauvais, les personnages sont très mauvais. Mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, franchement, voilà, c'est super drôle. Après, c'est quand même un poil misogyne, il faut le dire. À savoir que sur cette planète, donc le despot Wang, faut savoir qu'ils ont un signe aussi entre eux de reconnaissance. On parlait tout à l'heure de la vague, les signes de reconnaissance. Là, en fait, c'est un joli doigt d'honneur, le signe de reconnaissance des gens. Notre cher ami Flash Gordon se retrouve impliqué dans plein d'histoires. Il rencontre le prince dissident, qui est le prince pédalo, n'est-ce pas, qui est habillé comme un Robin des Bois, qui a été reclus dans la forêt, et donc toute la suite du prince pédalo sont ouvertement gays. Et donc à un moment il se retrouve dans les soubassements du château.
Il me fait peur. C'est un film
d'horreur.
C'est
pas moi, c'est un film.
Ouais, mais c'est un film.
C'est très drôle. Il se retrouve dans. Alors c'est là où c'est un peu misogyne. Il se retrouve dans les soubassements du château et donc il croise, puisque c'est un monde un petit peu masculin tout ça, et donc il croise les guerrières, hein, les espèces d'Amazones qui sont dans le cœur de la montagne, représentées par une nana un peu à la Cobra, tu vois, avec le bandeau sur l'œil, tu vois, très costaud tout
et
ça, avec une jambe. Avec une espèce de jambe en ferraille qui couine quand elle bouge et on lui met de l'huile fait pour qu'elle couine moins, un espèce de bras un peu comme le capitaine Crochet, tu vois, qu'un crochet dégueulasse au bout. Bon, bref. Et là où c'est misogyne, c'est qu'elle dit oui, nous sommes le MLF de la ligue, enfin de la planète, etc. Et donc effectivement, s'ensuit une bataille. C'est la version française. S'ensuit une bataille et le monstre qu'ils doivent battre pour gagner cette bataille, juste avant l'arrivée du prince Pédalo, il s'agit d'une mante religieuse tout en ferraille.
D'accord.
Donc je trouve, voilà, c'est un petit peu misogyne tout
ça. La symbolique est lourde.
La symbolique est lourde. Bon, c'est les années 70. Alors, passer ce petit trait-là, c'est quand même un film très drôle à prendre, mais vraiment au 20e degré, hein, vraiment. Entre amis, voilà, ça peut faire une projection très bête, très, très intéressante. Un Z comme je les aime, qui passe très, très bien le temps. Ça vieillit très, très bien et donc à déguster avec du bon vin.
D'accord. Entre le docteur Ejacu et le prince Pédalo, c'est au moins cadeau ton truc. J'adore
exactement.
Ça.
Donc, ça s'appelle Flèche Gordon. C'est sorti en 74. Il y a trois versions. Moi, j'ai vu la version coupée. Ah. Donc, la version de base, que c'est la seule que j'ai pu trouver, en fait, qui est 112 minutes. Vous avez une version originale qui fait 78 minutes et une version collector qui fait 90 minutes et qui, celle-là, est plutôt interdite au moins de 18, hein, qu'au moins de 17. Je ne les ai pas vues. Tout en sachant qu'il y a une suite que je vais m'empresser de regarder,
Dieu.
S'appelle Flèche Gordon et les cheerleaders de l'espace. Voilà, à bon entendeur, salut. Donc, c'était la sinécure.
Aujourd'hui, formidable. On vous a parlé d'un film qu'il fallait pas voir, c'est Vignan. D'un Flèche Gordon, je pense qu'il faut voir.
Oui, moi je vote pour, hein. Milite. Oui. Je milite pour que ce genre de film puisse être vu et revu.
La Vague, un film à voir.
La Vague, très mauvais zombie, par contre, pour La Vague, et Jusqu'en Enfer. Par contre, grosse dynamite avec de l'adrénaline à donf.
Allez, bonne semaine,
et n'oubliez pas le cycle Rock et Cinéma, dont FMR est partenaire du 2 au 30 juin à la Cinémathèque de Toulouse. Ciao, ciao.
Salut.
C'était l'émission du mardi 16 juin, l'émission cinéma, en attendant le supplément week-end qui n'a pas eu lieu cette semaine. Mais le supplément week-end reviendra samedi prochain en direct à midi sur Radio FMR et en différé sur supplementweekend.fr dans le podcast. Pour la 201e, on n'a pas fini les surprises, promis juré. On aura plein de trucs cet été. On a fait une interview d'Ifrémion en janvier dernier. Il y en a une autre que l'on garde précieusement pour le dernier Valérian et Laureline, c'est l'interview de Christin et Mézières. Il y a plein d'autres interviews que Thomas a exhumées qui n'ont jamais été diffusées sur Radio FMR puisqu'ils ont été faits pour un média vidéo et que tout simplement j'ai récupéré les droits sur ces interviews, j'ai tout à fait le droit de les diffuser. Donc ça, ces interviews qui datent un peu mais que l'on estime intéressant de vous passer. Ça sera tout cet été, sans compter que sur le site supplementweekend.fr. N'hésitez pas à vous inscrire au club des audis spectateurs, à renseigner si vous avez un site web perso, parce que nous on ira voir, on ira piocher chez vous, on ira s'intéresser, peut-être qu'on parlera s'il y a des trucs vraiment intéressants, voire à participer au top 5. D'abord il y a celui au top 5 qui sont actuellement ouverts au vote des audis lecteurs. Il y a celui des bandes dessinées qu'on est fiers de vous avoir fait découvrir, ça c'était pour le 200e, et donc ce dont je parlais tout à l'heure, le top 5 des films que vous auriez vraiment du mal à justifier comment vous êtes allé les voir. On estime que c'est amusant, on estime que c'est un bonus. Si vous inscrivez en plus, il y aura des petits trucs en plus qu'on mettra en place au fur et à mesure de nos temps libres, là encore une fois. Donc rendez-vous samedi prochain à midi sur les ondes de Radio FMR et dans l'après-midi sur supplementweekend.fr. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, plus.